d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, un écrivain antisémite pendant l'occupation, Louis-Ferdinand Céline. Il aime pas les juifs, Hitler, moi non plus. Il n'y a pas de quoi se frapper pour si peu. C'est pas un crime qu'il vous répugne. Je le dis comme je le pense, je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, 1935. D'histoire. À moins d'admettre qu'un auteur n'est pas responsable de ce qu'il écrit, que seul son talent doit être pris en compte, et que la littérature n'est qu'un simple exercice de style, rien ne saurait justifier qu'avant et pendant la guerre, un écrivain aussi célèbre que Céline ait pu mettre sa plume au service de la plus détestable des causes. Un mot publié est un acte de la pensée, écrivait Vercors. L'écrivain est responsable des conséquences de cet acte. L'auteur du Silence de la mer, un des premiers à entrer dans la résistance, savait à quel point les pamphlets de Céline, avant la guerre, avaient pu encourager, 3 ans plus tard, la politique antisémite de Vichy et cette exposition abominable, Le Juif et la France, qui s'ouvrait à Paris au Palais Berlitz le 5 septembre 1941.
J'entre dans le hall. Ce qui me frappe en entrant, c'est une main photographiée et découpée qui se trouve en haut du au plafond du hall et avec au-dessous cette légende « Prends tout ce qui n'est pas juif t'appartient », extrait des lois juives internationales. Prends. Je vois aussi une bande tout autour qui dit ceci en puisant depuis des siècles, et je fais le tour en même temps, dans leur Talmud, les juifs ne poursuivent qu'un but, notre asservissement. Et c'est cette preuve qui doit être donnée dans la visite de cette exposition. Je remarque pas mal de citations de Louis-Ferdinand Céline au cours.
Ah oui, évidemment, notre grand écrivain antisémite moderne, j'entends bien.
Frédéric Vitoux, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà ce que les Français pouvaient entendre sur Radio Paris en 41 au moment de l'ouverture de cette exposition antisémite avec ce journaliste rendant hommage à Louis-Ferdinand Céline. Dans votre biographie de Céline qui vient d'être rééditée chez Folio, vous consacrez plusieurs chapitres à cette époque pendant laquelle l'œuvre de Céline a servi au fond à justifier l'antisémitisme et cela avec d'autant plus d'efficacité qu'il était déjà très connu depuis 1932. C'était un des écrivains les plus célèbres de France dans les années 30. Frédéric Vitoux.
Oui, son premier roman, en 1932, Voyage au bout de la nuit, est d'emblée un énorme succès, un succès de polémique, puisqu'on sait qu'il devait avoir le prix Goncourt, il ne l'a pas eu, il a eu le prix Renaudot, mais prix Goncourt ou pas prix Goncourt, on ne peut pas dire que Céline soit un écrivain maudit à cette époque-là. Au contraire, c'est un écrivain qui est d'emblée célébré par les plus grands écrivains, que la presse salue, la presse de droite, comme la presse de gauche, du
même
reste.
Plus de gauche que de droite, parfois.
Oui, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui, par ses prises de position anticolonialistes, antimilitaristes, cette compassion par rapport à la misère ouvrière, inspire beaucoup d'intérêt de la part des gens de gauche. La preuve, c'est qu'il est traduit immédiatement en russe.
Il est même invité en Russie.
Il est invité en Russie. Trotsky sera, pour considérer toujours Voyage au bout de la nuit, comme l'un des grands romans du XXe siècle. Oui. Et donc, c'est un écrivain à succès, c'est un écrivain qui a des dizaines de milliers de lecteurs, qui après avoir écrit en 1932 Voyage au bout de la nuit, puis 4 ans plus tard un roman qui lui n'a pas de succès et au contraire insulté par la presse et qui s'appelle Mort à crédit, qui est l'évocation de sa jeunesse, écrit brutalement à la surprise générale, car ce n'est pas un homme de parti, ce n'est pas un homme, comment dirais-je, fiché idéologiquement dans un organe de presse, qu'elle soit de droite ou de gauche ou fasciste ou communiste ou centriste, écrit d'un seul coup à la surprise générale 2 textes, Bagatelle pour un massacre à la fin 1937, puis L'école des cadavres à la fin de 1938, et qui d'un seul coup deviennent des délires antisémites qui renversent tout le monde et qui ont beaucoup de succès, eux aussi, dans le climat ambiant.
On écoute justement Céline s'expliquer sur cette haine des Juifs telle qu'elle s'exprimait dans ses 2 livres. Au micro, c'était 20 ans après la publication de Bagatelle pour un massacre, en 1957, au micro d'Albert Sbinden.
Vous avez été antisémite.
Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre.
Sans ça, je n'ai évidemment rien. Je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites. Je n'ai pas de raison. J'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas ? Et tout simplement ma terre, n'est-ce pas ? Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas ? Je l'avoue, par vanité, par bêtise. Je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas ? Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé.
Et c'était Céline en 1957, 20 ans après son premier grand pamphlet antisémite, Bagatelle pour un massacre, et on vient de l'entendre. Il regrette certes de l'avoir écrit à cause des conséquences de ce que ça a pu avoir sur sa vie, mais il se renie pas.
C'est au fond le grand problème de Céline. C'est que il est antisémite avant la guerre pour différentes raisons. Il a évoqué l'une des raisons qui est en effet, je pense, la raison principale qui anime sa véhémence, sa folie, sa haine antisémite, c'est le pacifisme. Tous les historiens, Léon Poliakov, dans son histoire de l'antisémitisme en particulier, soulignent bien cette motivation première. Céline est un homme qui a été engagé en 1914, qui a été blessé, il est de ces gens qui disent « plus jamais ça ». Et qui par conséquent, dans le climat d'avant-guerre, le climat qui de la haine, de la guerre qui est imminente avec Hitler, il se dit par un raisonnement à la fois apparemment logique et totalement absurde, et même monstrueux. Il dit, Céline est antisémite, donc les Juifs ont intérêt à pousser les alliés, enfin les futurs alliés, à la guerre contre Hitler. Donc soyons antisémites, soyons contre ceux qui ont intérêt à pousser la guerre contre Hitler. Donc voilà une logique absolument aberrante, et d'autant plus aberrante que quand on pense qu'un livre comme L'école des cadavres, il le fait paraître fin 38, juste après les accords de Munich, même les antisémites les plus forcenés de l'époque, je pense aux gens d'une revue comme Je suis partout, qui sont vraiment les fascistes
français.
Trouvez
qu'il allait trop loin.
Mais les bras leur en tombent. Mais comment défendre un type qui dit vive Hitler, il faudrait une armée franco-allemande, je suis copain avec Hitler, je préférerais très Hitler qu'un Blum, enfin, c'est-à-dire,
je le cite, hein. Vous le citez dans votre livre, Frédéric Vitou, ça c'est un extrait de L'école des cadavres. Éviter la guerre par-dessus tout, la guerre pour nous, telle que nous sommes, c'est la fin de la musique, c'est la bascule définitive au charnier juif. Le même entêtement à résister à la guerre que déploient les Juifs pour nous y précipiter. Donc c'est ça, voilà. Selon lui et selon certains antisémites, les Juifs, c'était les responsables de la guerre.
C'était ceux qui poussaient à la guerre contre Hitler, en effet. Et d'ailleurs, même le titre des romans de ses pamphlets, est explicite. Quand il écrit « Bagatelle pour un massacre » ou bien « L'école des cadavres », ce n'est pas les massacres ou les cadavres juifs auxquels il fait allusion, c'est ceux de la guerre à venir qui l'effraient. Cela dit, il y a d'autres raisons que cette raison pacifiste. Qui est la première raison ? C'est le climat antisémite ambiant de la France d'avant-guerre.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, des écrits qui aujourd'hui seraient impensables, et passibles d'ailleurs de la loi, à l'époque, rien n'était interdit. Je crois que c'est en 1939 qu'il y a eu interdiction.
Oui, c'est ça. Il y a eu, au moment de la déclaration de guerre, un amendement pour réprimer pénalement.
Mais ils étaient autorisés, ça s'exprimait à la Chambre. Il y a Léon Daudet, en 36, quand Blum devient président du Conseil, qui dit c'est la première fois que dans notre vieux pays gaulois, un juif est à la tête du pays. Enfin, c'est vraiment, il s'exprime ouvertement, cet antisémitisme.
Ouvertement dans l'antisémitisme. Il y a un excès, un délire qui, je dirais, à l'époque, de manière condamnable, n'est pas pris au sérieux, vraiment. N'est pas pris au sérieux, parce qu'après tout, la France n'a pas connu de pogrom depuis le Moyen-Âge, pratiquement. Il y a eu l'affaire Dreyfus, mais enfin, elle s'est bien terminée plus tôt. Et si bien que Céline, qui est un homme du grossissement, de l'excès, de la vocifération, de la caricature, du délire, du style poussé à son incandescence la plus extrême, devient antisémite, des gens qui ne sont pas antisémites et qui pencheraient, disons plutôt à gauche, comme André Gide, par exemple, prennent ça à la blague. Ils disent, s'il fallait prendre ces antisémites au sérieux, ce serait horrible, mais manifestement, ils s'amusent et nous aussi. Et ce qui, au fond, le plus effrayant, rétrospectivement, c'est de penser que les gens ne prennent pas ça au sérieux, prennent ça à la blague, car Céline est un homme qui grossit, qui s'amuse, qui vocifère.
Oui. Et vous évoquez aussi éventuellement son enfance avec un père très antisémite, comme certains Français pouvaient l'être à l'époque de l'affaire Dreyfus, par exemple.
C'est ça le paradoxe de Céline, c'est que, en effet, il est dans un milieu petit bourgeois antisémite. Mais si on regarde un roman comme Mort à crédit, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est le roman de l'évocation de son enfance, il fait le portrait de son père. Et son père, qui est un petit employé de compagnie d'assurance, il dit toujours, parce qu'il n'est pas monté en grade comme il espérait, c'est la faute des Juifs. Et Céline démonte extrêmement tellement bien le mécanisme de la petite bourgeoisie française est antisémite en disant c'est la faute des juifs quand on est soi-même raté et qu'on a besoin d'un bouc émissaire pour se rassurer. Donc d'un côté Céline est très lucide par rapport à la société antisémite de son temps et d'un autre côté il bascule complètement dans ses égarements, ses erreurs qui deviendront bientôt des crimes.
Alors, erreurs et crimes qui ne sont pas seulement antisémites, parce que dans ses livres, je crois que c'est dans l'école des cadavres, il se prononce en faveur, dit-il, je le cite, d'une alliance franco-allemande, d'une confédération des États ariens d'Europe et même d'une armée franco-allemande, et cela quelques mois avant l'entrée de l'armée allemande en France.
Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Quand ils sont entrés en France, ben, je n'étais pas partisan, je me dis hurrah, vive les Boches, ça m'amusait pas comme les autres. Ils ont été assez stupides, Hitler en particulier, pour ne pas faire la paix à temps. Pendant toute la guerre, les Allemands sont venus me voir, ils m'ont toujours dit, nous allons gagner, nous avons la victoire. Mais donnez-moi des preuves, quelque chose, je ne vois pas du tout. Et ils m'ont jamais apporté de preuves, la preuve, c'est ce qu'ils ont perdu. Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix. En Europe, en France en particulier. Oui. Eh bien, c'est tout. Eh bien, qu'on prouve le contraire. Oui. Le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, mais ce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, mais ils n'en valent certainement pas la peine.
C'est étonnant, hein, ces propos de Céline.
Oui, parce qu'il faudrait en plus même l'écouter plus longtemps parce qu'il se laisse emporter par une sorte de rhétorique de l'excès, de l'humour, de la dérision, de la provocation. C'est très étrange, hein, en même temps, de sortant des énormités.
J'étais partisan de l'armée allemande, on vient de l'entendre,
mais
parce qu'elle maintenait la paix en Europe, alors qu'elle vient de déclencher. Mais là, on est quand même plus de 10 ans après la guerre, et il cherche évidemment à se justifier.
Non, le problème de Céline, si vous voulez, c'est que quand on intitule une émission comme celle à laquelle nous sommes aujourd'hui maintenant, Céline sous l'occupation, il y a presque un paradoxe. C'est que, au fond, les écrits antisémites de Céline, ce ne sont pas de l'occupation, mais sont d'avant. Comme il le disait lui-même,
sauf les Beaux Draps,
qui est relativement un livre plutôt interdit par Vichy d'ailleurs. Mmh. Les Beaux Draps, c'est paradoxe. Vichy interdit ce livre parce que c'est un livre défaitiste contre la France. C'est un livre qui prône les 35 heures. D'ailleurs, c'est amusant. C'est le premier intellectuel qui dit, il n'y a qu'une solution pour la condition ouvrière. C'est 35 heures par semaine et par bonhomme. C'est bien suffisant.
Ça peut paraître surprenant, je vous coupe, Frédéric, parce que vous dites interdit par Vichy, mais on peut le comprendre parce que non seulement il se déchaîne contre les Juifs, mais contre tout le monde. Et notamment les catholiques. Là encore, je le cite, les Beaux Draps, publié en 41, il dit « La religion catholique fondée par 12 juifs aura fièrement joué tout son rôle lorsque nous aurons disparu sous les flots d'énormes tourbes du géant lupanar asiat qui se prépare à l'horizon. » Alors, évidemment, il s'en prend à tout le monde et c'est vrai que Vichy n'a pas apprécié du tout.
Bien sûr, c'est un livre complètement antimilitariste, totalement défaitiste, où les allusions antisémites sont relativement modestes, si j'ose dire, par rapport au grand pamphlet d'avant-guerre. Donc, d'un côté, on a un Céline qui disait, en tant que homme singulier, solitaire, qui n'est pas un homme de parti ni de journal, et qui n'a d'ailleurs du reste jamais écrit un article rémunéré dans aucun journal de l'occupation, ni a fortiori occupé aucune fonction officielle sous l'occupation. Il disait, moi ce que j'avais à dire sur les juifs, je l'ai dit sous Blum ou Mendel, c'est-à-dire sur des gouvernements issus du Front Populaire, donc je ne vais pas le redire au moment où les Allemands sont à Paris. Donc ça c'est très bien, si on peut dire. Mais d'un autre côté, il ne renie rien. Et même après la guerre, on l'a entendu dans ses entretiens à la radio suisse, il ne renie rien. Mmh. Et pendant la guerre, il n'empêche pas la réimpression de ses pamphlets. C'est ça qui est accablant.
Oui, c'est de Noël. C'est quand même la responsabilité de son éditeur de Noël est grave. Enfin, parce que en 42, au moment où commencent justement les déportations, de Noël insiste pour faire reparaître ses pamphlets qui avaient été interdits justement juste avant le déclenchement de la guerre, au moment du déclenchement de la guerre. Ça, c'est quand même accablant,
la responsabilité,
y compris pour l'éditeur, qui éditait en même temps Aragon.
Oui. Non, la responsabilité de l'éditeur qui avait créé ces nouvelles éditions latines en parallèlement aux éditions de Noël est accablante. Mais celle de Céline ne l'est pas moins parce que non seulement il s'est pas opposé à la réimpression de ses pamphlets, ce qui lui aurait été facile, mais en plus on a des lettres de Céline où il écrit à des autorités allemandes pour demander du papier. Mmh. Donc on peut pas dire qu'il a vu ses pamphlets réimprimés contre son gré. Ce n'est pas le cas.
Mmh. Dans ses pamphlets, donc le dernier en date, vous dites qu'il n'est pas il est moins antisémite que les précédents. Oui, il y a quand même une phrase accablante que vous citez, Frédéric Vitou. Je la cite. Parce que là, ça va au-delà de la haine du juif. Ça va à l'extermination. Bouffer du juif, ça suffit pas. Je le dis bien, ça tourne en rond, en rigolade. Une façon de battre tambour. Si on saisit pas leurs ficelles, qu'on les étrangle pas avec. C'est très grave, ça. Est-ce qu'il était conscient au fond de ce qu'il écrivait? Plus tard, après la guerre, toujours pour se justifier, il disait au fond, ce qui compte c'est mon style, c'est pas ce que j'écrivais.
Non, je crois que ce qui compte c'est son style, oui. Je pense que Céline est un homme de l'amplification toujours. Quand il prend une image rhétorique, je pense que pour lui c'est de la rhétorique. Je ne pense pas, Dieu sait si je suis sévère sur Céline et justement ce manque de courage qui fait qu'il n'a pas renié ses pamphlets au moment où c'était accablant de les réimprimer. En revanche, je ne pense pas que quand il prend une image comme ça, faudrait les étrangler avec, ce soit une image qui renvoie directement à la solution finale dont il n'a pas l'idée. Mmh. Ce n'est ni une excuse, ni rien du tout. C'est un fait, qui me paraît indiscutable. Mais ce qu'il y a simplement, si vous voulez, chez Céline, c'est qu'à un moment donné, cet antisémitisme viscéral, profond, réel, qui est celui de la France moyenne, qui est celui de Céline, en même temps, la puissance imprécatrice de Céline, le délire célinien, fait que, au bout du compte, ça devient vide, ça devient en effet vidé du sens. Quand il dit, la religion catholique sont tous des juifs. Moi, j'ai une anecdote que je raconte dans ma biographie, que m'avait raconté mon ami Dominique Fernandez, dont le père était un intellectuel français qui dirigeait la NRF sous le contrôle allemand. Et il me disait que, un jour, son père et Ramon Fernandez, et Céline se promènent et rue de Rivoli, ils voient passer un régiment allemand au pas de loi, comme ça, et Céline dit à son ami Fernandez, tu as vu, c'est terrible, hein, tu les vois, regarde-les, c'est absolument déprimant. Et Fernandez dit, oui, en effet, c'était pour des Allemands à Paris, c'est effrayant, c'est un cauchemar. Il dit, oui, bien sûr, c'est un cauchemar, mais regarde-les, ces soldats, ils sont petits, bruns, comme ça. Il n'a pas un qui n'est pas juif. Et là, on se rend compte, excusez-moi, mais il disjoncte totalement.
Mais vous dites même,
il est dans une rapport de folie. Il ira même dire que Hitler était juif.
Vous rappelez dans votre livre, par exemple, il est envoyé en Allemagne pour parler à des ouvriers français du STO. Hein, donc il est sous autorité allemande. Bon, il parle devant des Allemands et devant des ouvriers français. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous connais bien, je suis des vôtres, ouvriers comme vous. Les Allemands disent qu'ils vont gagner la guerre, j'en sais rien. Les autres, les Russes, de l'autre côté, ne valent pas mieux. Ils sont peut-être pires, c'est une affaire de choix entre le choléra et la peste. C'est pas drôle, salut. Peste et choléra, les Allemands et les Russes. C'est insensé, parce qu'ils s'en prennent même aux Allemands. C'est délirant.
C'est pour ça qu'au fond, que les Allemands, il y a eu un problème assez curieux sous l'occupation avec Céline. C'est que d'un côté, Céline était l'écrivain français antisémite le plus emblématique, par le gros succès public qu'avait recueilli ses pamphlets antisémites avant-guerre. L'école des cadavres et Bagatelle pour un massacre surtout ont eu un succès comparable à celui du Voyage au bout de la nuit. Donc d'un côté, on a un écrivain antisémite dont on ne peut pas faire l'économie pour les collaborateurs, et en même temps, il est tellement fou, tellement délirant, tellement contradictoire, tellement anti-allemand, parce qu'il hait les Allemands, qu'il n'est pas récupérable par l'idéologie allemande. Ce qui veut dire que les Allemands n'ont jamais vraiment utilisé Céline.
Mmh. Un type on ne peut pas dire qu'il a collaboré de ce point de vue.
Ah non, mais littéralement parlant, Céline n'est pas un écrivain collaborateur. C'est un écrivain antisémite, c'est pas la même chose.
Alors cela dit, pour des raisons évidentes, menacé par la perspective d'une victoire alliée, au point de s'enfuir de France le 17 juin 1944, onze jours après le débarquement. Il part en Allemagne, où il va bientôt se retrouver avec d'autres collaborateurs et responsables de Vichy, dont Pétain, dans le Württemberg, au château de Sigmaringen.
Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Württemberg. Qu'ils se réfugient ici, dans ce château des Hohenzollern, les hommes qui, par peur, par ambition ou par bassesse, ont trahi la France et les Français.
Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simmering?
Pour la question très simple. À Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisée dans l'histoire.
Et c'était encore Céline, une interview en 57, commentant son départ en Allemagne, 13 ans plus tôt, assez misérable, hein, il fiche toujours le camp, au fond, les Allemands arrivent en France, il est même parti en 40 dans l'Exode, les Alliés arrivent, libèrent la France, il fiche le camp, on le verra plus tard repartir. Là, il va à Sigmaringen, il a raconté ça, c'est complètement cocasse, dans d'un château à l'autre.
En fait, c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, c'est que arrive peu, 8 jours après le débarquement allié en Normandie, Céline, qu'il savait déjà depuis longtemps que les Allemands avaient perdu la guerre, voit la libération de la France et de Paris assez imminente, question de mois, il n'a pas tort, hein, 2 mois après, Paris est libéré, et il dit, et il pense, et il a raison de le penser, que s'il reste à Paris, il va se faire massacrer dans les premières convulsions de la fête collective de la libération. Donc il décide de partir. En fait, il veut partir au Danemark. Pas du tout en Allemagne, il a rien à faire avec les Allemands. Il a mis de l'argent de côté à Copenhague, et il a des amis à Copenhague. Et donc il essaye de traverser l'Allemagne pour gagner le Copenhague. Là, il est bloqué en Allemagne, on lui interdit de partir en Allemagne, de passer la frontière, on lui donne pas de le laisser passer. Et c'est pour ça qu'il va, bloqué en Allemagne, sachant pas quoi faire, rejoindre la colonie française des rescapés de la collaboration, les gens de Vichy, volontaires ou pas volontaires, il va passer avec eux quelques mois avant enfin de pouvoir gagner le Danemark, qui était dès le départ sa destination prévue.
Alors là, c'est au Danemark que la France libérée demande l'extradition de Céline, hein, pour pouvoir le juger. Il va être emprisonné d'ailleurs plusieurs mois au Danemark. Il va sortir en 1947, je crois. Oui. Et c'est au Danemark, il vit dans la dèche, hein, dites-vous, Frédéric Vitoux, qu'il apprend sa condamnation en 1950 par un tribunal français à l'indignité nationale, à la confiscation de ses biens. Il sera amnistié un an plus tard en 51. C'est quand même, quand on pense que Brazia qui a été fusillé, Drieux qui a refusé d'aller en Allemagne, Drieux qui a refusé lui aussi, qui s'est caché à Paris, s'est suicidé. Il y a eu plusieurs écrivains, Chateaubriand, Suarez, qui ont été fusillés ou condamnés à mort. Lui, rien. Indignité nationale et amnistie. C'est quand même étonnant.
Non. Enfin non. C'est, on peut dire que sur un plan de justice, on peut penser que c'est étonnant, et en même temps, juridiquement, c'est irréfutable. Pourquoi? Parce que, justement, et ça, on l'a évoqué tout à l'heure, au sens strict du terme, Céline n'a pas collaboré, n'a même pas écrit dans des journaux, comme Brasillac,
Robatet. Vous citez quand même quelques articles, dans la Gerbe,
Je suis partout. Oui. Je dis, il n'a jamais collaboré régulièrement à aucun journal. Il y a eu environ une trentaine de manifestations de Céline dans la presse, qui étaient des lettres ouvertes à des rédacteurs en chef, qu'il publiait, mais qui n'étaient pas des articles. Et il n'a jamais écrit, c'était des articles, bon, assez discutables, mais qui n'étaient pas des articles de collaboration stricte. Donc, quand il s'agit de juger Céline, les Danois, qui n'étaient pas du tout pro-allemands, contents, ils avaient connu une épuration dure en réprimant sévèrement les Danois qui avaient collaboré, mais qui sont des juristes. On dit aux Français, vous demandez son extradition, nous on le met en prison pour le maintenir sur surveillance, donnez-nous les éléments qui justifie la haute trahison ou la collaboration. Et les Français sont un peu ennuyés parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas lui reprocher rétroactivement des textes de 37 et 38. Donc, on est dans un cas paradoxal où on a l'écrivain français, en effet, emblématiquement le plus antisémite de tous, mais sur lequel, durant le moment de l'occupation et de la collaboration possible, on n'a rien. Il n'a pas participé à aucune association, à rien. Donc c'est pour ça que les choses se passent mal pour les épurateurs, si j'ose dire, c'est qu'ils ne trouvent rien, et les Danois, déçus, le libèrent en disant, écoutez, on attendra que vous nous donniez des preuves plus sérieuses que votre dossier qui est complètement vide.
Lui-même est amnistié donc en France en 1951, ce qui lui permet d'y revenir, hein. Il s'installe à Meudon, il va passer un peu dans l'oubli les 10 dernières années de sa vie, recevant d'ailleurs un jour la visite de quelques journalistes qui parviennent non seulement à le faire parler, mais même à le faire chanter, écoutez.
Vive Katy Kala, putain, celle qui n'aime le matin, à l'aubergise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. Dieu profondis, yop tédium, à la grand-vergue le petit homme, chacun goéland dans sa mâture, à nous coulant, figure, celle qu'on branle chaque matin pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles.
Il est sous le mail, alors ça n'a aucune importance. Oui, oui. Enfin, il l'a fait comme il veut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, vous embêtez un petit
peu. Étonnant, Céline chantant, c'était en 55. Ouais. À l'époque, il est totalement oublié en France, ses livres.
Oh, il a, on peut dire qu'en gros, son purgatoire, c'est 51-56. Ouais. En 56, il publie D'un château l'autre, qui est l'évocation précisément des mois de Sing Maringen. Et là, le succès est énorme. Il y a des entretiens dans l'Express. Justement, ça fait scandale, parce que les gens de droit disent comment il ose donner un entretien à l'Express, et tous les collabos fascistes disent c'est une honte, il nous trahit. Et certains autres disent mais il trahit personne, il n'a jamais été des nôtres. Oui. C'était un homme singulier, il a bien le droit de donner une interview à qui vous voulez. Et le scandale Céline redevient au premier plan, et Céline redevient présent dans la vie littéraire.
Et même hautement présent, puisque bon, avant de mourir, en 61, je crois que c'est en 60 que la Pléiade publie Céline, sauf ses écrits antisémites qui, je suppose, sont interdits, où on dit que c'est lui qui voulait plus qu'on en entende parler.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il serait répréhensiblement sous le coup de la loi, parce que c'est des incitations à la haine raciale aujourd'hui, mais comme il a toujours dit que c'était des écrits de circonstances liés à l'avant-guerre et à la peur de la guerre, il a toujours demandé à sa femme, qui respecte sa volonté, de ne pas réimprimer des pamphlets de circonstances qui aujourd'hui feraient du mal sans aucun profit, qui est un profit historique des années 37, profit si j'ose dire, naturellement par antiphrase.
Frédéric Vitus, tel écrivain que vous êtes, que je m'adresse aussi, est-ce qu'on peut dire que malgré les écrits antisémites de Céline, on peut dire que c'est quand même un grand écrivain?
Céline est probablement, et ça c'est une idée reconnue par tout le monde, l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle. C'est pas par hasard qu'il est, avec Proust, même avant Proust, je crois, l'écrivain français du XXe siècle le plus traduit dans le monde. En chinois, en serbo-croate.
En hébreu même.
En hébreu, oui, Voyage au bout de la nuit, traduit à Tel Aviv. Mais c'est pas malgré, Céline est un bloc avec des parts d'ombre colossales que nous avons évoquées. Mais, je veux dire, un écrivain n'est pas forcément un homme qui pense bien. C'est un homme qui pense fort, qui a une vision, qui a un regard sur le monde. Et naturellement, on n'a parlé que de ce cas pour Céline, mais c'est un immense écrivain pour mille raisons qui justifieraient 30 émissions comme la vôtre.
Et qui justifie un très beau livre, très complet, Frédéric Vitus, Une vie de Céline, qui a été édité aux éditions Gallimard dans les collections Folio, et dont je recommande la lecture, puisque nous n'avons évoqué que quelques chapitres, mais c'est toute la vie de Céline que vous passez en revue dans ce livre, donc La vie de Céline, chez Folio. Vous êtes également l'auteur du roman Villa Semiramis, publié aux éditions du Seuil. À lire également Misère de la littérature, Terreur de l'histoire, Céline et la littérature contemporaine de Philippe Roussin, publié aux éditions Gallimard dans les collections Essai. Puis vous avez pu entendre des extraits de l'anthologie de Céline, dirigée par Paul Chambrillon, disponible en double CD aux éditions Frémaux et Associés. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne et Jessica Fouché à la technique. Claire Destacan, Claire Tesser, Sandra Escamel.